C'était James Brown, It's a Men's, Men's, Men's World. Il est midi, nous sommes sur les ondes de Radio Escapade et il est l'heure de retrouver le sens de l'actu avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Salut Issa, bonjour au Piémont, c'est Vnol et bien au-delà, et bienvenue dans Le Sens de l'Actu. Le Sens de l'Actu, c'est votre émission d'analyse critique de l'actualité, plutôt orientée. Et oui, quand les médias appartenant à des milliardaires nous assomment de propagande néolibérale, pour résister à ça, il suffira pas de jouer la neutralité, il va falloir peser peut-être dans le sens inverse. Mais toujours en s'appuyant sur le travail des journalistes. Moi, je suis pas journaliste, je fais que compulser des données et je profite de leur travail et je vous propose une petite synthèse de tout ça. Ce mois-ci, j'ai pas prévu de focus particulier. On va aborder plusieurs sujets d'actualité traités par quelques médias choisis en y ajoutant une petite touche d'analyse personnelle. Réarmement d'abord, sujet, un mot qui doit vous parler en ce moment, on l'entend. En ce moment, dans les médias et chez les politiques, on a droit à toutes les nuances de militarisme. Ça va des socialistes à l'extrême droite, des bulldozers de la propagande néolibérale à certains médias même plus ancrés à gauche. Parmi les journaux et mensuels que j'ai achetés pour préparer cette émission, la guerre était en une de l'Humanité et d'Alternative économique. Elle avait droit aussi à un dossier dans Politis. Autant dire que le sujet prend de la place. Et grâce au phénomène sociologique de mise à l'agenda, alors ça c'est quelque chose qui a été étudié par les sociologues, comme quoi quand les médias parlent d'un sujet, eh bien ça le rend important, alors qu'il y a tout un tas de sujets importants qui ne vont pas forcément être choisis. Eh bien, grâce à ce phénomène sociologique, il va prendre de la place encore plus dans les esprits et dans les conversations. Pourquoi donc vous rebattre encore les oreilles avec ça, puisqu'on vous en parle déjà beaucoup? Eh bien, bien sûr, c'est pour vous en parler autrement. Donc le contexte d'abord, petit récit sur petite mise en perspective historique. Après que l'URSS a été dépecée au tournant des années 90, sa population minée par le capitalisme triomphant, vous savez, tout ça c'est l'époque de la chute du mur de Berlin et tout, et que ses dirigeants aient été humiliés, la Russie a fait son chemin tant bien que mal dans l'économie de marché mondialisée dominée par les États-Unis. Malgré des coups de force notables pilotés par Poutine en Tchétchénie ou en Géorgie depuis, la Russie s'est faite discrète sur la scène internationale pendant deux bonnes décennies. Mais comme ça a déjà été le cas par le passé, l'esprit de revanche couvait. L'esprit de revanche de cet empire vaincu avec à sa tête un autocrate belliqueux, Vladimir Poutine, animer les casernes, les usines d'armement et bien sûr les oligarques qui font du profit avec la destruction et la mort. Et l'Occident, les États-Unis en tête, n'a pas aidé à apaiser les tensions. Avec leur alliance militaire, la fameuse OTAN, donc ça c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vous avez dû en entendre parler, les pays occidentaux, dont la France, n'ont cessé de se rapprocher des frontières russes et d'encercler la Russie en faisant adhérer toujours plus de pays jusqu'à la Pologne, qui a une frontière avec la Russie, et les pays baltes, qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Cela n'a pas manqué d'être vu comme une menace par les Russes. Après l'humiliation est venue la provocation donc. Quand, en 2008, le regard de l'OTAN se porte sur l'Ukraine, c'en est trop pour les Russes. Berceau de la civilisation russe et surtout ancien grenier à blé de l'URSS, avec des terres très fertiles et des ressources minières, l'Ukraine était trop importante pour le pouvoir russe. C'est donc en 2014 que ce combat d'influence débouche sur un début de conflit militaire. En l'espace de quelques semaines, l'armée russe se déploie en Crimée, donc c'est une péninsule du sud de l'Ukraine qui est entourée par la mer Noire. Et le 18 mars, la Russie déclare que la Crimée est annexée. La même année, une guerre civile éclate dans le Donbass, une région minière de l'est de l'Ukraine. Des habitants russophones et sécessionnistes y sont soutenus par le pouvoir russe et demandent leur rattachement à la Russie. La région n'a cessé d'être à feu et à sang depuis. Mais lorsque, en février 2022, des troupes russes entrent en Ukraine et prennent le chemin de la capitale, c'est une guerre extrêmement meurtrière qui débute pour de bon et dure encore aujourd'hui. Les victimes civiles ukrainiennes sont légion, des millions de personnes fuient le pays et des soldats des deux camps meurent par centaines pour récupérer quelques kilomètres carrés de territoire qui seront perdus le lendemain. Comme d'habitude, les profiteurs de guerre et les industriels de l'armement sont aux anges. Les voix pacifistes, nombreuses en Russie, sont étouffées dans la violence et la répression. La population ukrainienne n'a pour horizon que le courage et la résignation, et dans nos pays d'Europe de l'Ouest se développe un discours peu nuancé sur la menace russe. Un discours, disons, guerrier. Et c'est dans ce contexte qu'une loi de programmation militaire est votée en 2023 qui prévoit une augmentation colossale, donc en France, hein, je précise, qui prévoit une augmentation colossale des dépenses militaires, une augmentation des effectifs de l'armée et une modernisation des équipements. Donc, on en arrive à aujourd'hui, dans l'UMA de mercredi dernier, on peut lire qu'il est prévu une hausse de 47% du budget militaire de 47 milliards à 68,9 milliards. Je souligne l'effort qu'a fait la rédaction de l'UMA en interrogeant Roland Nivet, porte-parole du mouvement de la paix. Ce mouvement a lancé une pétition qui réclame 1 milliard pour l'éducation, un autre pour la santé et un autre contre le réchauffement climatique au lieu de passer tous nos efforts et nos moyens dans l'armée et le réarmement. Ça n'est pas vraiment le projet du gouvernement, étant donné que dans le budget 2026, tous les postes de dépenses de l'État fondent comme neige au soleil au seul profit de la défense. Chez Alternative économique de ce mois-ci, la nécessité d'un réarmement est très peu remise en question, mais au moins le manque de consultation démocratique sur les dépenses est pointé du doigt. Les députés n'avaient pas pu examiner le volet dépenses de la loi de programmation militaire, par exemple, en 2023. Il est dit aussi que ces augmentations de dépenses sont soupçonnées de pallier à des retards de paiement de commandes passées, ce qui peut laisser penser qu'une modernisation profonde de l'armée française nécessiterait des efforts financiers titanesques, sachant que d'une génération de matériel militaire à l'autre, les coûts doublent voire triplent, selon le même article dans Alternative économique. Donc, quant à moi, chers auditeurs, je vais vous prédire quelque chose, et là, c'est la partie éditoriale. Dans les mois ou les années à venir, à chaque fois qu'il sera question de préserver le fonctionnement de nos services publics, de la sécurité sociale, on brandira l'épouvantail russe dans les grands médias et dans les discours politiques. À chaque fois que des citoyens alerteront sur la nécessité de financer notre système social, l'éducation, la santé, la protection de la nature, qui est, rappelons-le, vital, il se trouvera un néolibéral, un conservateur ou un fasciste pour le traiter de traître à la nation, d'irresponsable, voire pourquoi pas d'agent de l'étranger. Et il faudra résister à cela. Il faudra riposter même, savoir répondre qu'on préférerait voir le peuple russe renverser Poutine par exemple et faire advenir la paix ainsi que d'aller tuer de pauvres fantassins russes par drone interposé comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Il faudra savoir aussi répondre que la paix, si elle paraît naïve, c'est le seul horizon enviable dans les relations internationales. C'est ce que je pense en tout cas. Et peut-être si en effet danger il y a, si parfois des affrontements sont inévitables, parce qu'on n'est pas non plus naïf, il faudra savoir proposer, que dis-je imposer, qu'on prenne l'argent là où il est, chez les plus riches, rentiers du capital, qui ne cessent de s'enrichir pendant que nos politiques, jouant les aveugles, font semblant de ne pas voir cette manne financière.
Certitude, je reconnais voir la beauté dans le don de soi, le sacrifié. Y a du bon dans la loyauté, sans dominance, sans canidé. Saoulé pour ce que j'ai pas fait. Un jour, je me retournerai sur ma vie pour me demander si vraiment je t'ai tout donné. Non, ben non, j'ai bien compris, j'ai bien mis de côté. Ben non, en prévision des jours mauvais, maintenant, tout ce qui me reste est périmé. Une pseudo-éco-anxiété. Je suis ton côté. J'ai plus de temps à perdre mon cachet. Si t'en doutes. C'est pas joli, mais je fais ce que je peux. Je reste poli, vas-y, casse-la, moi. Fais le petit, j'ai rien à dire. Ah, mais je te le dis, t'as ce côté Calimero.
Voilà, vous êtes de retour sur Le Sens de l'Actu, l'émission d'analyse critique de l'actualité. On vient de s'écouter De ton côté du groupe Deluxe. Maintenant, on va parler du budget de la sécurité sociale. Saviez-vous qu'on fête cette année les 80 ans de la Sécurité sociale ? Ce dispositif de financement des soins permet aux plus modestes en France de se faire rembourser des soins parfois très coûteux et toujours indispensables. Si on devait avoir une fierté en France ou un trésor national, ça serait peut-être plus la Sécu que les bijoux de je ne sais quelle reine volée au Louvre. Pour fêter cet anniversaire, notre gouvernement avait prévu une petite surprise dans le budget 2026, parmi plein d'autres surprises. Un sabotage sans précédent de notre système social avec, en vrac selon l'Humanité de mercredi dernier, une baisse nette du pouvoir d'achat des retraités, la suppression de 2 jours fériés, le doublement des franchises médicales, une réduction des arrêts de travail, un coup de rabot sur les titres restaurants, etc. Alors là, je cite que les mesures qui ont heureusement été abandonnées grâce à quelques députés, de gauche essentiellement, qui nous ont défendus à l'Assemblée. Mais si les socialistes, souvent avides de compromis avec le macronisme, crient victoire, les coupes budgétaires restent énormes et elles auront de graves conséquences. Il s'agit de 3,6 milliards d'euros de coupes, notamment sur l'hôpital public, selon Mathilde Panot, députée France Insoumise, qui ajoute qu'aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter cela. Pour vous donner une idée, Bernard Arnault a une fortune estimée en 2025 à 164 milliards d'euros. Un jour, on fera une spéciale d'ailleurs sur le profit. Comment ça se fait que Bernard Arnault est aussi riche? C'est quand même assez mystérieux. On pourrait, si on le souhaitait, peut-être se servir dans ce genre de fortune pour financer tout un tas de choses au lieu de faire autant de sacrifices sur notre système social. Bref, énormément de députés, depuis les écologistes jusqu'aux républicains, ont exprimé leur complaisance par l'abstention, ce qui leur permet d'éviter d'être associés à ce massacre tout en laissant passer le texte. parler de la Serbie. Saviez-vous qu'en Serbie, un impressionnant mouvement social fait trembler le pouvoir depuis maintenant un an ? Le déclencheur fut l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad, une ville serbe, le 1er novembre 2024, qui a fait 16 victimes. Anecdotique, me direz-vous ? Non, comme souvent, ce drame a été le révélateur d'un système corrompu où des entreprises soudoient des politiques pour obtenir des contrats et exécutent les travaux en se souciant peu de la qualité des ouvrages. Ces pratiques mafieuses deviennent donc la norme. De tels abus existent dans le monde entier, mais pour la jeunesse serbe, c'en était trop. Rapidement, des étudiants et de nombreux citoyens organisent des manifestations monstrueuses réclamant la fin de la corruption, la dissolution du Parlement et le départ du président Aleksandar Vučić. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ce dernier, se sentant assiégé, fait appel depuis à un mélange de flics ultra-violents et de milices composées de hooligans et de mafieux pour protéger son pouvoir. Parfois habillés en flics, toujours protégés par les flics, des mercenaires attaquent les manifestants régulièrement et tentent de semer la terreur dans le mouvement. J'ai lu ça, un article là-dessus dans CQFD du mois dernier. Mais le peuple révolté ne plie pas. Malgré la pression du pouvoir, la surveillance, les détentions arbitraires et toutes sortes d'intimidations et de violences, le mouvement social anticipe la fin du régime en constituant des listes citoyennes pour de potentielles élections législatives, en prenant soin d'éviter la récupération politique et les compromis avec le pouvoir. De nombreuses décisions sont prises démocratiquement dans des assemblées appelées des plénums et de nombreux pans de la société se rallient au mouvement. C'est donc dans ce contexte plutôt réjouissant que survient donc ce dont je voulais vous parler, qui est plutôt flippant. Le 15 mars dernier, à Belgrade, lors d'une immense manifestation, une arme d'un genre nouveau et à l'efficacité glaçante a été utilisée contre des manifestants. On voit sur une vidéo qui a été prise ce jour-là, une foule de manifestants se scinder en deux parties très nettes, de part et d'autre d'une grande avenue. J'ai regardé ça, c'était impressionnant. C'est une espèce de canon à son qui aurait été utilisé, un mégaphone qui émet des ondes sonores très fortes sur une zone très ciblée. Il y a une vidéo de Blast qui parle de ça, c'est un monologue de Elodie Emery, une journaliste qui s'est rendue sur place pour enquêter après avoir vu cette vidéo mystérieuse. De nombreux témoignages font part d'un son faisant penser à un avion ou d'un train qui leur fonce dessus, provoquant des acouphènes, des nausées et des pertes d'équilibre. Nombreux sont ceux qui conservent des séquelles psychologiques. Pour le moment illégal, ces armes soniques risquent fort de se généraliser prochainement dans le monde, partout où des régimes autoritaires se sentent menacés et cherchent à se maintenir par la force. Autrement dit, dans beaucoup d'endroits. Alors, encore quelque chose de peu réjouissant, mais il y aura quelques bonnes nouvelles promis vers la fin de l'émission. On va parler de la guerre au Soudan. Très très peu réjouissant. Il y a une super vidéo de la chaîne YouTube Histoire Crépue qui raconte sous un angle inhabituel une guerre ayant lieu en ce moment en Afrique. Le Soudan est régulièrement en proie à des conflits, mais celui qui est en cours depuis 2023 est particulièrement alarmant. Il a été marqué récemment par le massacre d'El Fasher, une ville de l'ouest du pays, du Darfour, qui a été prise par des milices. Quel est le contexte ? En 2018, le peuple soudanais, maintenu dans la misère et l'obéissance par Omar el-Béchir, le président de l'époque, se révolte et le dictateur finit par tomber. Mais au lieu du régime plus démocratique exigé par la population, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Plus tard, en 2023, deux généraux qui s'étaient distingués par le massacre de civils au Darfour entrent en compétition pour le pouvoir. Ce sont Abdel Fattah al-Burhan, le dirigeant officiel du pays, et Mohamed Hamnad Dogolo, à la tête des FSR, dit Emeti, qui se livrent depuis une guerre ignoble dans laquelle les civils sont sans cesse pris pour cible. Le massacre d'El Fasher se passe donc le 28 octobre dernier dans cette ville qui est la capitale du Nord Darfour. Les habitants qui tenaient le siège ont vu entrer les FSR dans la ville et des milliers de civils ont été tués. Encore une guerre en Afrique, on aurait tendance à se dire que les Africains sont condamnés à la guerre. Pourtant, l'Europe a été secouée par la guerre pendant des siècles et est aujourd'hui pacifiée, et de nombreux pays africains connaissent aujourd'hui une certaine stabilité. Comme toujours, il y a derrière une histoire de ressources, entre autres. Les FSR se financent grâce à l'exploitation de mines d'or et à la vente d'or aux Émirats Arabes Unis, et la Russie a aussi ses réseaux et profite des ressources du pays tout en étendant son influence dans la région. Donc la conclusion, c'est de ne jamais résumer un conflit en Afrique à des querelles ethniques. C'est aussi un ordre international et un ordre économique qui permet cela, et ça n'est jamais une fatalité. On va parler maintenant de la COP 30. C'est, je ne sais pas si vous connaissez les COP, les conférences des parties sur le climat. C'est quand des dirigeants du monde entier, enfin de plusieurs pays, se rencontrent pour décider de quelles politiques vont être menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc éviter la catastrophe qui s'annonce dans le réchauffement climatique actuel. Donc en novembre, s'est tenue la 30e conférence des parties. J'aimerais donner des bonnes nouvelles, mais le bilan n'est pas foufou. Alors que Donald Trump s'est retiré des accords de Paris et des engagements à réduire les émissions de CO2, ce rassemblement de dirigeants pour une grande partie autoritaire et de lobbyistes n'a pas du tout débouché sur un accord ambitieux. Les contributions présentées ne permettront pas, selon les spécialistes, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2100. Et 1,5 degré ou 2 degrés, ça paraît dérisoire, mais si c'est une moyenne sur la planète, c'est absolument catastrophique avec l'augmentation de catastrophes à laquelle on assiste aujourd'hui. Aucune feuille de route n'a été votée pour sortir des énergies fossiles et limiter la déforestation, qui était la thématique phare de cette rencontre parce qu'elle se passait en Amazonie, à Belém. Heureusement, les habitants de l'Amazonie ont su se faire entendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Des manifestations monstrueuses ont eu lieu. Un sommet des peuples a réuni plus de 500 communautés autochtones de 9 pays pour réclamer la sortie des énergies fossiles et la fin de la déforestation et dénoncer l'impact des multinationales extractivistes. Le mouvement a présenté ses doléances à la présidence de la COP en demandant d'être entendu, ce qui est la demande la plus importante finalement. Que les COP intègrent dans le processus de décision les peuples pour que l'urgente bifurcation écologique mondiale se fasse démocratiquement. Pour en savoir plus, il y a une vidéo de Blast là-dessus. Vous tapez Blast COP 30 sur YouTube et vous en saurez beaucoup plus. On va parler maintenant du Venezuela. En ce moment, Donald Trump, l'homme de paix autoproclamé, est en train de piloter un projet de renversement du pouvoir vénézuélien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Après avoir poussé pour qu'une opposante au président Maduro reçoive le prix Nobel de la paix, alors que c'est en fait une dame d'extrême droite, et non content des sanctions économiques qui ont fait fuir des centaines de milliers de Vénézuéliens vers l'étranger, beaucoup en Amérique latine, depuis l'époque d'Hugo Chavez, l'empire états-unien se livre à des actes de piraterie en mer et à des attaques de pétroliers vénézuéliens, contraires au droit international sous couvert de lutte contre le trafic de drogue. En réalité, les États-Unis, et ça ne date pas de Trump, ne supportent jamais qu'un pays d'Amérique latine nationalise ses ressources, refuse de libéraliser son économie ou bien se tourne vers d'autres partenaires commerciaux, et ce sont des choses qu'a fait le Venezuela. C'est une affaire à suivre, donc on fera une spéciale sur les ingérences américaines en Amérique du Sud et ailleurs, et elle sera bien costaud. Il y a une vidéo de Blast, le courrier diplomatique du dessous des mondes, CDDM, donc sur le Venezuela. Vous tapez CDDM Blast Venezuela, vous tomberez là-dessus. On va donc maintenant s'écouter un petit morceau de musique, avant de continuer. êtes de retour sur Radio Escapade, émission Le Sens de l'Actu, décryptage critique de l'actualité. On vient de s'écouter Core du groupe italien Kalashima. On va parler maintenant de, puisqu'on est sur un média local relativement indépendant, plutôt indépendant, qui me laisse une grande liberté d'expression, en tout cas à moi, eh bien on va parler de la situation des médias indépendants. Plusieurs médias indépendants, notamment en ligne, sont en alerte depuis que Macron a annoncé vouloir labelliser les médias selon des critères obscurs de fiabilité. Une super vidéo de la chaîne Elucide explique la menace qui pèse sur l'information indépendante en retraçant les lois macronistes qui ont jalonné ce processus de contrôle de l'info, depuis la loi anti-fake news de 2018 jusqu'à celle sur les ingérences étrangères, en passant par la loi sécurité globale. Il est très bien expliqué qu'avec ces textes sous couvert de bonnes intentions, l'État s'ouvre un boulevard pour sanctionner, voire anéantir des médias qui ne vont pas dans son sens. Comment ? Tout réside dans le flou juridique. Quand un texte de loi ne précise pas ce qu'est une fausse information, ce qu'est un trouble à l'ordre public, ce qu'est une influence étrangère, il se laisse la possibilité de réprimer ceux qui tentent d'informer, de protester ou de lancer l'alerte. Enfin, la vidéo explique comment les plateformes comme YouTube, qui regorgent encore aujourd'hui de contenus critiques, et c'est une bonne chose, envisagent quand même d'invisibiliser les contenus politiques, toujours avec des prétextes bidons et des méthodes détournées. C'est mieux expliqué dans la vidéo. Monsieur Macron, nous, on aimerait bien, en tout cas on serait nombreux à souhaiter qu'il soit interdit de se faire élire à grand renfort de matraquage médiatique comme vous l'avez fait. On aimerait que Monsieur Le Cornu, par exemple, soit sanctionné pour sa fake news au sujet des ventes d'armes à Israël. Mais on n'en a pas le pouvoir, du moins pour l'instant. En tout cas, je vous invite, chers auditeurs, à suivre cette histoire de labellisation des médias et j'en profite pour relayer notamment la campagne de financement de CQFD qui est parue dans le numéro du mois dernier. Vous pouvez aller sur Hello Asso, vous tapez CQFD, je pense que vous trouverez si vous voulez financer un média, ce mensuel marseillais d'actu critique qui est excellent. Sinon, il y a le média en ligne Elucide qui est en même temps dans la même vidéo qui parle de ce contrôle de l'information, parle aussi de sa campagne de financement et demande des dons. Et il y a tant d'autres journalistes indépendants, des médias comme Reporter, comme Le Canard Réfractaire et j'en passe et des meilleurs et des aussi bons qui sauvent l'honneur de ce métier quand d'autres versent dans la propagande. Donc voilà. À la place de, je sais pas, ça vaut quelques croissants, quelques cafés ou un paquet de cigarettes de financer peut-être un média indépendant à partir de maintenant. On va parler du mouvement No Kings qui a lieu aux États-Unis en ce moment. Alors que Donald Trump, et là on entre dans les bonnes nouvelles, alors que Donald Trump est en train de mettre la population américaine au pas en érigeant le mensonge, l'exploitation et le racisme au rang des valeurs suprêmes, le mouvement No Kings a rassemblé plus de 8 millions de personnes le 18 octobre dernier dans de très nombreuses villes du pays contre sa politique. 8 millions aux États-Unis, c'est énorme. Les populations progressistes devant le désastre de la politique intérieure de Trump, ses exactions envers les immigrés notamment, commencent à désobéir. Ils se servent pour cela de la juridiction de certains États comme le Vermont, dont certaines lois comme l'interdiction d'entrer dans un lieu sans mandat peuvent aider à protéger des personnes, pour que les services anti-immigration par exemple ne pénètrent pas dans un lieu sans interdiction pour se saisir de quelqu'un. La Californie a récemment interdit que la police soit masquée, ce qui peut être utile quand Trump envoie la garde nationale pour provoquer les manifestants. C'est dans ce contexte que l'élection de Zohran Mamdani, un socialiste musulman à la mairie de New York, redonne de l'espoir aux humanistes et aux progressistes des États-Unis et bien au-delà dans le monde. Enfin, une autre bonne nouvelle. Dans Alternative économique, on apprend que Total Energy vient d'être condamné pour sa communication mensongère et son greenwashing. Alors que Patrick Pouyanné se baladait à la COP30 justement au Brésil en prétendant ne pas être un lobbyiste. En effet, l'entreprise qui continue d'augmenter ses investissements dans les énergies fossiles prétend sur son site internet avoir l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et d'être un acteur majeur dans la transition énergétique. Fermez les guillemets. L'entreprise a été condamnée à cesser cette publicité mensongère, à publier le jugement sur son site et à verser des réparations aux ONG qui ont porté plainte, qui sont Notre Affaire à Tous, Greenpeace France et Les Amis de la Terre. Voilà, c'était tout pour ce mois-ci sur Le Sens de l'Actu. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Et l'année à venir, on aura par exemple, entre autres, une spéciale sur le climat, sur l'Empire américain, sur aussi le profit dans le système capitaliste, technique mais passionnant. Et aussi, on fera peut-être une spéciale bonne nouvelle et initiative citoyenne, ça fera du bien. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes et je vous dis à bientôt dans Le Sens de l'Actu.